tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement France. Et vous êtes sur Radio Campus. Et aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y aura moi-même François. Je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, un petit sommaire. Nous allons d'ailleurs continuer le dossier sport qu'on a entamé la semaine dernière. On a plein de news, hein, forcément, sur la technologie, sur l'intelligence artificielle, peut-être un petit point sur l'agriculture. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'album découverte qu'on va déballer, mais plusieurs musiques que l'on va découvrir. Et je pense que le thème est un peu sur le style ringard.
Bah, candap, quoi, non ?
Alors, tout de suite, les gros mots sont lâchés.
Effectivement. Et comme d'habitude, vous nous connaissez, nous allons faire un petit point sur l'agenda culturel de la semaine ou sur d'autres événements qui se sont éventuellement passés.
Alors, Dom, qu'est-ce qu'on a raté cette semaine ?
Alors Dom, toi qui as fait une petite recherche.
Une petite séquence nécrologique.
Ah oui.
Parce qu'on a appris aujourd'hui, je crois, il y a quelques heures. Au début, j'ai cru que c'était l'inventeur du Lego. Mais non, c'est l'inventeur du bonhomme Lego.
Ce qui est différent.
Tout le monde connaît les Legos, les briques, et puis à une certaine époque, effectivement, il y a des petits bonhommes et des petites bonnes femmes qui sont apparus. Petits bonhommes jaunes, ronds. Et donc c'est le... Alors attends, je vais essayer de dire son nom. C'est un Danois, c'est Jens Nygaard Krunsen, qui avait 78 ans. Et donc c'est lui qui a dessiné la fameuse silhouette et le mécanisme, parce qu'ils étaient animés, etc., des fameux bonhommes Lego.
C'est peut-être pas l'invention du siècle, mais ça reste une invention qui a marqué tout le monde.
Ça a marqué beaucoup plus que d'autres inventions.
Ça a permis d'animer un peu les constructions que tu faisais avec tes briques.
Il a fait une boule jaune avec trois points, deux pour les yeux, un pour le nez, une petite bouche, et c'est parti, quoi.
Ah ouais. Mais il fallait que ça reste sur des formes géométriques.
Mais ça s'emboîte. Mais
c'est vrai qu'au départ, les maisons Lego, tout le monde faisait des maisons, des gares, des usines, je sais pas quoi, avec ces Lego. Mais il y avait personne, il n'y avait pas de vie dedans, en fait. C'était juste des bâtiments vides. Et donc, il a créé des petits personnages dans le but de mettre de la vie dans ces bâtiments. C'est poétique.
Et depuis, ça fonctionne toujours. Hein. Peu importe la génération, il y a toujours des événements qui se passent, et notamment dans la région, où on va pouvoir découvrir des univers en Lego et qui s'adaptent toujours aux franchises des nouvelles séries. C'est toujours intéressant à voir.
Il y a des gens qui connaissent plus le Lego par les films ou les jeux vidéo, qui ne savent même pas qu'il y a des vrais Lego, des vraies filles. J'imagine, j'exagère un peu. Il y a quand même qu'on peut trouver les petites filles. Hein. Et donc la brique Lego a été inventée, alors de mémoire, je cite ça de mémoire, en 1958. Voilà. Mais le petit bonhomme n'est apparu que dans les années 70. Voilà.
Et la prochaine fois, on vous parlera de Playmobil. Non ? Alors, ce week-end, il y avait la Comic-Con de Bruxelles, on en a déjà parlé plusieurs fois.
Ah oui, donc sur le Facebook de la Comic-Con Bruxelles, le Facebook officiel, hein, parce qu'il y a plusieurs Facebook Comic-Con, on peut voir des interviews de toutes les vedettes qui étaient là, etc. Et puis des photos, donc c'est assez sympa d'aller voir ça. Et des fans qui se sont pris en photo à côté de leur vedette préférée, enfin ! Celui qui a le plus de succès apparemment, c'est Anthony Daniels, le comédien qui fait C3PO. C'est le seul comédien qui est apparu. C'est le seul comédien qui est crédité à tous les films de la série depuis l'origine. Mais c'est celui qu'on voit le moins puisqu'il est toujours dans le costume de C3PO.
C'est vrai.
C'est un paradoxe.
Et c'est peut-être celui qui vend le moins cher ses photos.
En fait, ils auraient pu envoyer n'importe qui. Ouais, je suis à côté de C3PO. Bah oui. Prouve-le. Oui, il serait venu en C3PO, mais dans ce cas-là, on n'aurait pas su. C'est ça le problème de jouer dans un personnage dont tu ne vois pas le visage.
Il
y
a aussi celui qui joue dans R2-D2.
Chewbacca, la plupart des autres personnages qui sont maquillés, de toute façon.
Quoi, Chewbacca, c'est un personnage ? C'est pas une vraie personne ?
Non, pas du tout.
Quoi ?
Et ce week-end, il y avait aussi le Festival des Jeux de Cannes.
Ah oui. Qui s'est terminé cette semaine.
Ça m'étonne que vous n'ayez pas été faire un tour à cette nouvelle édition.
Bon, on y était l'année dernière.
C'est toujours la même. Hein. Voilà. Toujours la même chose. Hein. Ce qui change, c'est forcément, il y a des nouveaux jeux. Quoique, à chaque fois, il y a des protos qu'on voit depuis des années. On dit qu'un jour, ils sortiront. On ne sait pas. Mais surtout, Cannes, c'est aussi l'occasion de remettre les prix L'As d'Or. C'est le prix. C'est un prix qui est remis à des jeux de l'année qui sont sortis donc il y a moins d'un an, qui sont disponibles en magasin. Ça, c'est un des critères importants. Mm-hmm. Et il y a trois catégories. Il y a la catégorie enfant, donc c'est pour les enfants. Quoi, voilà. La catégorie tout public, pour la famille, et la catégorie expert. Je suis content parce que la catégorie expert, il y avait quatre jeux. Il y avait Route, il y avait It's a Wonderful World, et il y avait Gloomhaven, trois très gros jeux, etc. Et il y avait Res Arcana, dont j'ai déjà parlé dans l'émission, puisque c'est mon coup de cœur de l'année dernière. Et c'est Res Arcana qui a gagné. J'avais aucun doute là-dessus. Et oui, encore une fois, on va quand même donner les gagnants des autres catégories, même si j'avoue que je ne les connais pas. Alors, Asdor 2020, dans la catégorie enfant. C'est un jeu qui s'appelle Attrape Rêve. Et le principe, c'est pour les 4 ans et plus. Il coûte 25 apéros. Hein, 25 euros, apéro.
Apéro, ouais, ça revient pas. Bon, on prend, hein, on prend.
C'est, ah, c'est, puis je vois l'apéro, c'est pas faux. C'est édité par Space Crow et Space Co, la vache de l'espace. Intéressant. Et ça se passe dans le monde des rêves et des cauchemars pour les enfants.
Mmh. Ouais, pour faire simple, on a une, on joue le rôle de Doudou qui protégeons le sommeil des enfants. Et le but, c'est de recouvrir une tuile cauchemar qui a une illustration d'un cauchemar plus ou moins grande. Et les enfants doivent, eux, prendre une tuile Doudou qui est de plus ou moins grande en fonction de leur choix pour recouvrir intégralement le cauchemar. Mmh. Donc l'enfant va dire, est-ce que je prends une grande tuile pour recouvrir le cauchemar, et j'en suis tranquille, mais de fait, sa récompense sera moindre. Alors que s'il prend une tuile plus petite, avec des risques de ne pas recouvrir complètement le cauchemar, il va gagner plus s'il est réussi. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de réussite à la fin. Bon, je vous passe les détails.
On dit un jeu pour enfants, mais est-ce que c'est jouable
pour enfants?
Pour
je joue qu'avec des grands, moi, parce que des fois, il y a un petit peu de profondeur.
Ouais. Là, dans celui-là, non. Les petits jeux que les gros jeux. Dans celui-là, c'est un jeu pour enfants de 4 ans, donc forcément, les adultes. Tu as la mesure en tête, tu vois par exemple sur une image qui fera 10 cm, si tu vois que ça fait 8 cm, tu vas repérer les tuiles qui t'intéressent le mieux. Un enfant, lui, il va pas avoir cette mesure-là, il va pas connaître tout ça. Il va voir, est-ce qu'il va prendre une grande tuile pour recouvrir et gagner un jeton, ou est-ce qu'il va essayer de prendre une petite et tester et voir s'il va gagner 3 jetons ou pas. Voilà. Et c'est là où il va faire son apprentissage des mesures.
C'est bien quand les jeux sont pas, parce que souvent, on fait des jeux pour enfants et on fait des jeux éducatifs. Et des fois, on associe toujours les jeux de société à l'éducation. On dit toujours il faut jouer avec des enfants pour leur faire apprendre soit les maths, soit l'anglais, soit le français, etc. Non, faut juste tu fais des jeux pour qu'ils s'amusent, etc. Et souvent, c'est avec ces jeux-là qu'ils vont retenir le plus de choses qu'ils vont apprendre. Donc, c'est un combat de nombreux éditeurs et auteurs, ça, pour pas qu'on arrête de leur dire les jeux pour enfants et jeux éducatifs, c'est pas. Ça devrait être interdit, les jeux. Le mot jeu éducatif, il y a des gens qui sont allergiques à ça.
Je pense que les meilleurs jeux, c'est ceux qui sont extrêmement simples. Ouais. Mais où il y a une complexité qui se cache un peu derrière, où là l'enfant s'amuse parce qu'il peut jouer, il va avoir de l'entertainment.
Il est dans son moment jeu et donc il cherchera pas à dire non. On m'oblige à travailler, donc je suis rebuté à tout ça quoi.
Et l'adulte lui va avoir un autre objectif. Qui va pas forcément dévoiler à l'enfant.
C'est humilier
il va...
son enfant en
Ah, tu vois, toutes les nuits que je m'as pas fait dormir au début.
Très bien.
On a les mêmes.
Et dans la catégorie tout public, c'est Oriflamme, qui est édité par Forge Next et Studio H, qui coûte une quinzaine d'euros. C'est un petit jeu de cartes. Attends, je cite, qui mêle bluff et décision tactique au cours d'une lutte de pouvoir sans pitié.
Ça a l'air très intéressant.
Je cherche un jeu qui ne correspond pas à cette définition, un jeu de cartes. Parce que de la belote au poker, tous les jeux de cartes que je connais, il y a toujours du bluff et de la décision tactique.
En fait, dans celui-là, on a tous 10 cartes identiques. On va les mélanger, on va en retirer 3 au hasard. Et après, on va les placer face cachée, chacun de notre tour, sur une sorte de piste.
Donc, tu vas programmer toujours, un peu tes
voilà,
cartes.
Mais c'est la même piste pour tout le monde. C'est-à-dire, si je joue premier, je vais passer ma carte face cachée. Après, c'est à François. François va la mettre soit à gauche, soit à droite par rapport à moi. Après, toi, Dom, tu vas la mettre soit à gauche de François, soit à droite de moi, parce qu'il faut toujours être aux extrémités de piste. Et après, quand on y a tous joué une fois, soit on continue à en rajouter une au face cachée sur un extrémité de la piste, je vais y arriver, ou soit on révèle une de nos cartes. Ah. Et si on la révèle, on applique le pouvoir de la carte. Et donc ça peut être de détruire la carte qui est à droite ou de dire ben, dans ces cas-là j'inverse deux cartes et le but c'est gagner des points d'influence et celui qui en a le plus au bout de 6 tours a gagné.
Donc
tu sais
petit
pas
à petit
cartes,
on va connaître les cartes, on va pouvoir bluffer
et comme il n'y a que 10 cartes différentes, 3 qui sont rejetées du
c'est jamais la même chose, ça change,
tu sais les cartes qui sont retournées, donc tu sais lesquelles ont été jouées, donc petit à petit tu apprends le jeu et tu sais quelle carte jouer à la place.
Ouais, c'est vrai que c'est pas matériel
si
pas compliqué, règle plus ou moins simple à expliquer, mais effectivement, il peut y avoir de la richesse en rejouant et quand tu joues.
Mais il y a Il y a de plus en plus de jeux de société qui apparaissent et qui disparaissent, malheureusement. On en a plusieurs. On peut dire qu'il y en a plusieurs par jour, hein, si on compte dans tous les pays. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, on arrivera au bout de toutes les possibilités de jeux ou... Est-ce qu'on va pas finir comme les films à faire des remakes de trucs?
C'est déjà le cas. Ouais, ça a toujours été un petit peu le cas.
C'est ça.
C'est pas évident. Bah, le monde du jeu de société, de l'édition, des créateurs, etc., est en plein bouleversement en ce moment. Les auteurs eux-mêmes sont en train de se battre pour acquérir un statut particulier. Ouais. Voilà. C'est vraiment un monde qui est en train d'évoluer, surtout qu'en plus il est connecté. C'est pas dans cette émission qu'on va dire le contraire. Au monde du cinéma, de la série, des jeux vidéo, etc. Tous ces mondes-là sont interconnectés, puis se prennent des idées les uns des autres et des auteurs les uns des autres. Donc c'est en train d'évoluer. Donc c'est impossible de prévoir ce qui va se passer à l'avenir. Oui, puis sans parler des jeux, oui, effectivement, des jeux de société qui viennent sur tablette et compagnie. Donc peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de jeux de société en boîte et qu'on jouera qu'avec nos ordinateurs ou nos montres tactiles ou des lunettes de réalité virtuelle.
Voilà, alors pas de réalité virtuelle, de réalité augmentée.
Augmentée, ouais. Ouf, voilà.
D'ailleurs, on en a peut-être déjà parlé, mais il y a de plus en plus de personnes qui se greffent une sorte de télé sur leur table. Sur lequel ils vont faire des jeux de rôle ou peut-être des jeux de société. Ouais, donc ça,
au lieu de sortir les boîtes de tournée, à quoi on va jouer ce soir? Eh ben oui, tu peux imaginer qu'à la place de la table d'apéro, tu as un grand écran tactile et puis hop, tu as tous tes jeux qui sont enregistrés dedans et il suffit de cliquer sur un jeu, d'aller le chercher. Puis le jeu, tu n'as même pas besoin de mettre en place ni de ranger après, c'est pratique.
Voilà. Si vous êtes intéressé, on va lancer un Kickstarter.
Tu auras le plaisir de lancer les dés ou pas, c'est... À noter que l'Asdor, c'est un prix qui est remis donc tous les ans depuis, je ne sais plus combien de temps, mais à chaque fois c'est un succès parce que, donc là, c'est, par exemple, je prends Res Arcana, c'est un jeu qui a déjà son petit succès d'estime, etc. Mais en boutique, si vous voulez l'acheter, il faut vous dépêcher parce que votre boutique spécialisée, en fin de semaine, il y a des chances qu'ils n'en aient plus. Et ça a été le cas. L'année dernière, c'était The Mind. On en a déjà parlé. Oh, est-ce qu'on en a déjà parlé ou pas ici? Un jeu qui a eu un succès incroyable, mais c'est un petit jeu de cartes qui vaut 10 balles, donc c'est parti très très vite. Et c'est facile à reproduire, enfin à refabriquer. Et l'année d'avant, par contre, c'était Azul, qui a eu un énorme succès. Il avait eu le prix en Allemagne aussi. Je ne suis pas sûr.
Question.
En gros, mais le problème, c'est qu'au moment même où le jeu était épuisé, quoi.
Ouais.
Les boutiques, même sur le salon, en fait, les gens écoutent le prix pendant le salon. Ah, c'est ce jeu-là, il se précipite tout de suite à la première boutique du salon je fais qu'en 10 minutes, le stock était épuisé.
Et puis il les revend à la sauvette à la fin du festival.
C'est un succès énorme. Pour un jeu comme ça qui est primé, c'est un succès d'estime. Les auteurs sont contents. C'est un prix en plus, ok, à mettre sur la boîte.
C'est une des meilleures reconnaissances au niveau France.
Ouais. En France et même Europe, parce que c'est un prix qui commence à être un peu reconnu dans le monde, dans le monde du monde du jeu.
Un dernier petit événement.
Dernier, t'es sûr?
Je pense qu'il
y en a qui se passent.
Ah, non, effectivement.
Oui, pour rester dans le jeu, un site dont on avait parlé la semaine dernière, et c'est myludo.fr, qui vous permet, qui vous permet d'enregistrer votre bibliothèque de jeux de société et d'aller d'en découvrir et d'apprendre plein de news sur le monde du jeu et l'actualité du jeu. Et en ce moment, jusqu'à ce soir minuit, je pense, il y a un concours qui permet de gagner des jeux, c'est gratuit. Donc si vous avez un compte, vous y allez. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer gratuitement votre compte sur myludo, myludo.fr et participer au concours. Il y a des boîtes de jeu à gagner.
Et je sens que tu t'es déjà inscrit.
Ça fait longtemps.
Je vous propose d'attaquer enfin le sujet de sport et on continuera avec quelques autres news d'agenda.
Oui, plus tard.
Bien sûr. Alors, c'est vrai que on a les Jeux Olympiques qui arrivent cette année, hein, c'est à Tokyo.
2020, oui. Enfin, pour l'instant, c'est encore programmé, hein, parce qu'avec le petit virus qui se promène en Asie, dans le monde entier, c'est pas gagné.
Ah, ils vont peut-être déclarer forfait, on a peut-être des chances de médaille.
C'est pas impossible qu'il y ait une annulation complète des Jeux Olympiques, pourquoi pas?
Bah, je pense que ça aurait pu arriver, peu importe le pays. Dans
voilà,
le fond.
Peu importe.
Puisqu'on voit, il y avait une conférence sur le mobile qui se passait à Paris.
Barcelone,
effectivement.
Oui, le grand salon du mobile, en fait.
Et qui a été annulé parce que... les plus grosses boîtes...
C'est un petit peu ça.
Ils sont pas venus.
Ça serait le salon de la choucroute, bon... Mais le téléphone mobile sont un peu fabriqués tous dans le pays du virus.
Et on a quelques petites news de sport. Alors, est-ce que tu veux commencer par intelligence artificielle ou équipement sportif?
Ça, c'est un petit peu mélangé, je crois.
Moi,
j'ai mis comme challenge, on avait pas intelligence et sport dans la même phrase. Comment faire? eh ben, tu rajoutes artificiel derrière intelligence et ça marche.
Alors, ce qu'on a vu récemment, c'est que la France commence à investir un peu dans l'intelligence artificielle, surtout liée au sport. Alors, c'est quelque chose qui se faisait avant, mais qui se développe de plus en plus. Alors, il faut savoir que...
Il ne s'agit pas d'enlever le cerveau d'un sportif pour mettre un ordinateur à la place, même si ça pourrait avoir de meilleurs résultats des fois quand on écoute les interviews des sportifs, mais bon... C'est vraiment d'utiliser la technologie, alors les nouvelles technologies bien sûr, mais l'intelligence artificielle et le big data pour améliorer les performances des sportifs sans les doper en fait.
C'est ça, puisque le big data est déjà utilisé, surtout pour voir lorsqu'il y a certains matchs qui sont gagnés sur certaines compétitions.
Quel que soit le sport, oui c'est ça.
Généralement, il y a toujours une sorte d'impact économique, les gens vont acheter différemment, vont peut-être se comporter différemment, ce qui fait que les gens attachent beaucoup d'importance aux data qui sont générées lorsqu'un match est gagné, etc.
Ouais, c'est ça, que ça soit un vélo, une course à pied, un match de sport ou de football ou de sport collectif quelconque, on a des images et on a des capteurs. Alors peut-être pas des capteurs sur les athlètes eux-mêmes. En Formule 1, les voitures, on sait qu'elles sont remplies de capteurs qui sont analysés pendant les courses en temps réel par des ordinateurs qui sont des fois plus gros que les voitures elles-mêmes, etc. Et qui analysent en temps réel des milliers de données, le souffle, le rythme cardiaque, la chaleur de toutes les parties du corps, je sais pas, de toutes les pièces d'équipement s'il y en a, les mouvements et compagnie, enfin toutes les performances. Et puis c'est traité derrière. Il y a des gens qui sont chargés, ce qu'on appelle des data scientists, qui sont chargés d'analyser et de traduire ces chiffres et ces graphiques, ces camemberts, ces lignes qui, de toutes les couleurs, en données concrètes pour expliquer aux entraîneurs, aux coachs et aux athlètes eux-mêmes comment améliorer à tel moment de la course, tu perds en performance, etc. Enfin, je donne des
voilà, effectivement. Et cette partie-là a été beaucoup travaillée par les anglo-saxons qui ont déjà intégré le big data dans la formation des athlètes. Et c'est la France maintenant qui va investir beaucoup d'argent pour, alors premièrement, repérer de futurs athlètes, en prenant donc les données, les datas des jeunes athlètes, des sports de, alors je vais pas dire de bas niveau, mais des sports amateurs. Et cette partie-là va être assez importante puisqu'ils pourront ensuite plus ou moins faire en amont une analyse de ce qui va se passer ensuite. Donc en gérant certains athlètes, ils seront capables donc de gérer un peu le résultat du score, donc capables de gérer l'influence économique que ça va avoir après. Donc voilà.
C'est vrai que jusqu'ici, si on prend l'exemple du sport, comment est-ce qu'on repère les jeunes? Un club professionnel, le LOSC, etc., ou le Paris Saint-Germain, ils ont des armées. Ils avaient des équipes de recruteurs, de spécialistes, des fois des anciens joueurs, des anciens entraîneurs, qui sont chargés d'aller parcourir toute la France, et voire beaucoup plus que la France, pour aller dans les petits clubs, les tournois de district, etc., repérer des jeunes. Alors, soit ils filment, soit ils notent des stats ils voient les joueurs en temps réel, mais ça prend un temps fou, ça demande beaucoup de monde, tu peux pas voir, tu peux éventuellement repérer les résultats dans les journaux, les statistiques, repérer ceux qui marquent beaucoup, mais les gardiens, comment tu fais? Il n'est pas écrit à chaque fois qu'un gardien arrête un ballon, tu peux pas voir. Donc, faut presque des armées de gens qui vont étudier, fouiller, surtout qu'en plus, toutes les équipes font pareil. Donc, des fois, j'imagine que sur certains terrains, t'as moins de parents que de scouts des équipes professionnelles. Et comment faire ça? On recueille des. Tu peux très bien envoyer quelqu'un qui va filmer, quelqu'un qui ne connaissait pas, un technicien, qui va simplement prendre des notes, filmer des séquences de jeu, etc. Ensuite, ça va être ramené, compilé, et à ce moment-là, dans un studio, au QG du club, examiné, traité par des intelligences artificielles, on y vient, qui vont examiner toutes ces images, toutes ces données, toutes ces photos, essayer de repérer, de faire du travail de masse, en fait, ce qu'on faisait artisanalement avant. On fait faire par des ordinateurs, quoi.
Voilà, donc un peu comme dans les grandes entreprises, maintenant, le sport sera également géré par des données, des tableaux.
C'est des entreprises commerciales comme les autres maintenant, les clubs de sport, il faut que ça rentre. Et puis les joueurs, on le voit de plus en plus, c'est des marchandises qu'on achète, qu'on revend. C'est exactement ça, c'est des marchandises.
Alors, vu qu'on parle de sport, je vous propose d'entamer cette première musique. Alors, Dom, effectivement, on l'a peut-être déjà passé sur Radio Campus, mais des morceaux de qualité.
T'as juste voulu qu'on parle de sport pour passer cette chanson, avoue-le.
J'avoue, c'est un peu le cas. L'artiste s'appelle Rémi Tarrier.
Artiste.
Je n'arrive pas à comprendre.
Un artiste découvert sur BD Musique.
Quand je t'ai connu, J'étais hors jeu. J'attendais la mi-temps pour souffler un peu. Depuis un bon moment, je touchais plus un ballon. Je tournais en rond dans la surface de réparation. Pour réchauffer mes mains, je les mettais dans mon short. Et j'étais triste, comme une belle attaque qui avorte. Soudain, sur une passe lumineuse, ma vision du jeu se fit plus claire. Je t'ai tout de suite remarqué, démarqué près du poteau de corner. Une occasion comme ça, il n'y en a pas deux dans un match. J'ai pas hésité. Contrôle de la poitrine, reprise de volée en plein cœur. T'es belle comme un coffre de Platini qui va dans la lucarne. Sensuel comme un petit pompelé dans un mouchoir de poche. Moi qui suis comme un tir de rocheteau qui s'écrase sur le poteau. Imagine comme je fus étonné que tu m'aies sélectionné. Comment ? T'es anglaise ? J'ai le trac. Je n'ai encore jamais aimé au niveau international. Je songe à Liverpool et me souviens d'Ipswich. Dès le coup d'envoi, je comprends que ce sera très physique. Mais j'aime aller au contact. Épaule contre épaule, nous partons en une deux. Je sens que tu veux changer d'aile. Tu essaies de t'échapper par quelques feintes de corps. Mais je reste vigilant. Toujours à la limite de la correction. Jusqu'à cette putain de 89e minute. Je jure, il n'y avait pas pénalty. Tu t'es laissé tomber toute seule. Résultat, lorsque j'ai protesté, tu as sorti ton carton rouge en me disant « Pour toi, c'est fini. Il n'y aura pas de match retour. Je ne pleure pas, non, c'est la douche. Au stade où j'en suis, je vais me pendre à la barre transversale. Et je veux qu'on m'enterre au Parc des Princes. Et pourtant... T'es belle comme un coffre de Platini qui va dans la lucarne. Sensuel comme un petit pompelé dans un mouchoir de poche.
Je vous ai promis de la sensualité sportive, elle est là. On n'en a plus beaucoup des chanteurs à texte maintenant.
Est-ce qu'il y avait un texte
de Fontaine?
Oh non, mais d'homme. Mais...
Quoi? Bon, pour rester dans le sport, donc toujours dans cet exemple de domaine où l'intelligence artificielle et le big data peut aider, il y a une start-up qui s'appelle Catapult, qui a été issue de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui travaille sur ce domaine. Et ils donnent, par exemple, pour le tennis, ils ont filmé plus de 3000 joueurs de tennis. Et ils ont analysé les gestes. Ils ont pas analysé. Voilà, c'est ce que je disais. Avant, 3000 vidéos, t'imagines, avec des cassettes, ça aurait pris un temps fou. Tandis que maintenant, avec les ordinateurs, tu peux faire ça très vite, faire des comparaisons. Puis ça passe dans un logiciel qui analyse toutes les images. Et tu es capable, ils sont capables de dire, tu montres les vidéos d'un enfant, ils sont capables de dire si cet enfant, par exemple, a plutôt intérêt à faire un revers à une main ou à deux mains. Ils sont capables de donner des conseils précis à ce point-là. De voir si les gestes sont bons ou pas, c'est impressionnant.
Et c'est ce qu'on a un peu vu s'étendre lors de la Coupe du Monde dernièrement, c'est tous les replays qui étaient possibles, dû au fait que maintenant on a des caméras partout.
Un match de foot dure 90 minutes, mais tu as alors 90 000 heures d'images à exploiter pratiquement.
Effectivement, un ordinateur, lui, n'a pas besoin de regarder ça en vitesse normale pour traiter l'information.
Cette importance de l'analyse et de la big data et de l'intelligence artificielle, ça a paru au moment de 2012 des Jeux de Londres, où les athlètes anglais ont écrasé. Enfin, on savait qu'ils étaient bons. Bien sûr, on attendait à prendre le médaille, mais et tu sais toujours que la nation qui accueille gagne plus de médailles que les autres nations, comme ça. Mais là, ils ont fait c'était monstrueux, ils ont pratiquement écrasé tout le monde, parce qu'ils avaient déjà appliqué à ce moment-là des méthodes pour améliorer les performances de leurs athlètes, voire dans, et ça pour tous les sports, hein, du, pas le curling parce que c'était le sport d'été, mais du, des sports les plus bénins aux sports les plus importants. Dans tous les sports, ils avaient donné des moyens pour que les gens travaillent et des outils technologiques derrière pour analyser les et améliorer les performances de leurs athlètes. Donc les athlètes, sans les doper, apparemment, je fais des guillemets, mais en les dopant technologiquement, enfin, d'une façon de parler, quoi. Mais
est-ce qu'on peut être dopé au big data,
des performances c'est la grande question.
Voilà, est-ce qu'on ne parlerait pas de dopé, on dirait plutôt augmenter. Il a des capacités augmentées.
Ouais.
C'est tout simple. Hein.
Alors,
on en parlait un petit peu avant l'émission. Effectivement, le dopage, c'est ce qui est gênant dans le dopage, c'est que, comme on dit toujours le Tour de France, mais ils sont tous dopés, donc ça change rien. Alors, si tout le monde avait le droit de se doper, avait les mêmes produits, etc., qu'est-ce que c'est? Ce qui est gênant, c'est qu'effectivement, comme je disais, les produits dopants sont très mauvais pour la santé, pour la santé des athlètes. Ils ont ça des répercussions sur leur santé à eux, puisqu'on voit souvent des athlètes qui meurent très vite. Ils arrêtent leur carrière à 40, 45 ans, ils ont des crises cardiaques, ce qui n'est pas normal pour un athlète, normalement. Soit ils n'ont pas d'enfants, et quand ils ont des enfants, des fois, il peut y avoir des déformations. On sait que ça a un impact. Donc, on sait que le dopage n'est pas bon pour la santé. Sinon, effectivement, pourquoi ne pas l'autoriser? Mais le dopage technologique, voilà, on se souvient des tenues, vous souvenez, les nageurs avaient, il y a certains nageurs qui avaient des tenues spéciales qui les recouvraient, puis qui étaient, on appelait ça peau de requin ou peau de chatouille, qui donnaient un petit bonus. Alors, si tout le monde est équipé de ces tenues, pourquoi pas, c'est plus spectaculaire. Mais le problème, c'est que tout le monde n'y avait pas accès. Donc, ils ont fini par les interdire complètement. Oui.
Et effectivement, on peut faire une analogie avec des dernières chaussures qui ont été créées par Nike, exactement, par exemple, les Air Zoom Alphafly Next.
Wow, j'ai déjà oublié le nom.
Donc, ce sont des chaussures qui ont l'air comme des chaussures habituelles, sauf qu'elles sont dotées de lames.
Elles ressemblent aux chaussures que j'avais quand je faisais du sport. Hein. Wow, ça, on dirait des. Enfin, c'est un truc de fou, quoi.
Elles sont allégées de deux lames de carbone. Et ces exemplaires, ces prototypes ont été offerts à des athlètes qui les ont essayés effectivement dans des compétitions, ils se sont rendus compte que leur performance était meilleure.
Ça me fait penser à Gaston Lagaffe quand il invente des chaussures et il met des lames, il met des ressorts dedans, des ressorts super puissants. Boop, et il se retrouve pas sur la lune, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Et ça me fait penser aussi, enfin, j'imagine qu'ils ont tiré leur expérience de là, de Oscar Pistorius, le Sud-Africain, vous vous souvenez, qui avait été amputé des jambes et qui avait couru, et il avait des pieds artificiels. Et en fait, c'était des lames de métal. Et il courait dans les Jeux Olympiques handicapé, mais il avait demandé à partir. Il faisait des performances, il allait même plus vite que les valides, en fait. Donc il avait demandé à participer en tant que valide dans les courses. Et il y avait eu de longs débats à savoir est-ce qu'on l'autorise à courir avec les autres. Alors le problème, c'était pas tellement pour les performances que. Bon, mais c'est que ça pouvait être dangereux. Par exemple, s'il tombe, et comme il a des lames au pied, le coureur d'à côté, il peut peut-être se blesser en passant. Bon, il y avait ce problème-là. Mais c'est surtout que moi, j'imaginais que. T'as les autres coureurs qui le regardent et qui s'aperçoivent qu'avec ses lames, avec musculature, il gagne une seconde. Le mec à dire, est-ce que je vais pas faire exprès de me faire amputer les jambes pour me faire, mais ça aurait fini par arriver, je pense. Il y aurait un athlète valide qui se serait dit, si ça peut me faire aller plus vite, pourquoi pas?
Ou alors.
Et que c'est pas dangereux. Enfin, c'est pas dangereux.
Ou alors en rajouter sous les chaussures, mais de là se faire amputer
les
jambes, ouais.
Et puis, il va faire une vidéo sur YouTube en disant je vais le faire en direct si vous mettez autant de dons.
Non, mais il aurait peut-être provoqué en douce un accident. Oh, j'ai pas de chance.
Non.
Ça aurait fini par arriver. Ça finit toujours par arriver.
Ça aurait fait les chaussures. Gaston Lagaffe avec des lames en dessous peut-être.
Il y a Nike qui vient d'inventer les chaussures. T'as même plus besoin de te couper. T'imagines le gars, il s'est coupé les pieds. Et une semaine après, t'as Nike qui sort ses chaussures. Pas besoin de vous couper les pieds, les gars. On a des chaussures pour vous.
Et t'as quelqu'un qui lui offre en plus.
Donc effectivement, ces chaussures, c'est magique. Tout le monde va les acheter. Mais le problème, c'est que non, tout le monde ne peut pas les acheter parce qu'elles sont, c'est même pas en série limitée, c'est en modèle pratiquement unique.
C'est effectivement un prototype qui a été interdit donc par les fédérations, tout simplement parce que
pour l'instant,
elles ne sont pas disponibles à tout le monde.
Exactement.
Donc vous avez droit de les utiliser, mais à la seule condition que tout le monde ait accès à ce type de chaussures.
C'est comme si je participe à un concours de fléchettes avec des fléchettes, avec un petit radar autoguidé, tu vois. Bon. Mais bon.
Oui, pourquoi pas.
Rappelez-vous, au Tour de France, il y a quelques années, on avait soupçonné des coureurs d'avoir des vélos électriques, des vélos avec des petits moteurs cachés dans le cadre. C'était amusant parce qu'on s'en était aperçu parce qu'il y a un coureur qui était tombé
et le
vélo continuait à rouler. Enfin, il roulait pas, mais les roues continuaient à tourner. Puis tout le monde regardait le vélo et le mec était tombé à 3 mètres. Ça, c'est bizarre, ton vélo, il continue à pédaler tout seul. C'est quoi cette arnaque?
Vaut mieux dépêché à remonter dessus.
Et voilà.
Mais voilà, c'est...
Donc, le dopage technologique, est-ce que c'est du dopage ou pas?
C'est intéressant de voir que ça serait autorisé, donc tout le monde pourrait porter des lames de carbone, par exemple, à la seule condition que tout le monde puisse en avoir. Donc ça veut dire qu'on autorise, mine de rien, ça dans le sport. Ça veut dire que peut-être déjà, on a des équipements qui sont améliorés et déjà disponibles. C'est tombe, on a déjà des vélos super légers que tout le monde utilise.
Oui, ça. Bah, même en matière de course, hein, j'ai vu des chaussures, tu vas en magasin, tu vas dans le rayon, tu vas voir les chaussures les plus chères dans le rayon des chaussures de course à pied, tu les prends, c'est impressionnant, et logiquement, quoi, c'est très léger, puis, si tu les fais faire sur mesure en plus, mais ça te donne un avantage, mais au moins c'est accessible, c'est impressionnant quand je vois les chaussures avec lesquelles les gens couraient au début du siècle dernier, ça n'a rien à voir.
Donc, juste un peu au-dessus des chaussures, on a aussi les protège-tibia.
Waouh.
Alors, c'est une société qui s'appelle Tib Top, qui est spécialisée dans les protège-tibia habituels, donc en
football,
plastique, effectivement. Et là, ils ont développé un nouveau prototype qui est déjà disponible à la vente. Ce sont des protège-tibia connectés.
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé la protège-tibia intelligent. Je vois un footballeur. Ok, et je vois les protège-tibia intelligents. J'ai voilà, le cerveau est là. On savait que le footballeur avait le cerveau dans le pied, mais bon, à ce point-là.
Eh ben non, c'était un peu au-dessus.
Mais à quoi ça sert?
Alors,
est-ce qu'il est intelligent?
Premièrement, c'est doté d'un GPS intégré.
Ah, des fois, qui se perd sur le terrain. C'est si con que ça, un footballeur.
Ils sont très cons, les footballeurs.
Ah, voilà,
oui, j'en ai vu qui se perdaient. Hein.
On va s'attirer des foudres. Je sens que le téléphone de campus va sonner. Mais effectivement, ce GPS va pouvoir, premièrement, voir un peu tous vos déplacements et en faire un peu des statistiques qui vous permettent
ça
de voir.
C'est des capteurs en plus pour analyser. Comme ça, tu vas pouvoir revoir tes matchs à l'entraînement et voir que tu aurais plutôt intérêt à jouer du côté gauche. Oui, c'est ça.
Voilà, donc avec votre distance parcourue, votre moyenne de temps de jeu, les faux sprints.
Mais c'est vrai qu'on dit souvent, le football par exemple, c'est pas des maths, c'est pas des statistiques, c'est pas des finances, mais de plus en plus, il y a des chiffres. Ce qui est amusant, c'est que avant on mesurait certaines statistiques, le temps de jeu, la possession de balle, etc. Et il y a des nouvelles statistiques qui commencent à apparaître parce qu'on est capable de les mesurer plus. Et ce qu'on voit régulièrement maintenant au niveau des matchs professionnels, c'est les kilomètres parcourus par l'équipe, par telle ou telle équipe. Et on voit souvent que l'équipe qui gagne plus, elle n'a pas forcément la maîtrise, mais on s'aperçoit par exemple que la distance moyenne parcourue par les joueurs de telle équipe, c'est 110 km sur un match, et alors que l'équipe en face qui a perdu, c'est que 95 km. Et c'est des chiffres, c'est pas forcément évident.
Tout comme la possession de balle, etc.
Voilà, c'est ça. Il y a des nouveaux chiffres qui apparaissent.
Ça te permet, comme on disait tout à l'heure, de voir que tel joueur qui est normalement pivot central devrait faire tourner le ballon très souvent pour avoir des bonnes occasions pour les avant-centres. Mais là, t'as quelqu'un derrière qui revoit le match et qui redit toi, tu as touché le ballon 36 fois, alors que là, c'est
tu sais qu'il va devoir au prochain entraînement travailler plus telle ou telle phase de jeu, etc.
Alors après, soyons honnêtes, les protège-tibias servent à protéger vos tibias, donc forcément si quelqu'un est en train de vous smasher le tibia, votre tibia en prend un gros coup. Alors
non,
quand c'est des tibias,
tout le monde s'écroule par terre et roule jusqu'au but adverse en criant horreur, malheur, j'ai mal. Ils touchent des primes d'intermittent du spectacle, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Les tibias, ils vont ressortir aussi propres qu'ils sont rentrés.
Le fait est, c'est que quand tu détruisais une paire de tibias, de protège-tibias, 10 euros, ça allait. Mais là, c'est 180 euros d'objets connectés que tu... les gens vont faire exprès de taper des protège-tibias.
Ils vont tous tacler maintenant.
Est-ce que vous vous souvenez quand Cantona avait été expulsé d'un match parce qu'il avait fait une espèce de coup de kung-fu sur un des spectateurs, en Angleterre.
Et il avait juste regardé Karate Kid Soccer.
Je crois qu'il n'avait pas touché le gars, mais est-ce que tu crois que s'il avait eu ses protège-tibias avec GPS, etc., il aurait pu toucher le gars avec une... mieux le viser?
Shaolin Soccer, le film dont tu parles.
Exact. Shaolin Soccer, la référence des films.
J'aimerais bien voir un remake de Shaolin Soccer avec Cantona. Tiens. Je note. Affaire.
On aura des robots sur l'herbe. Il y a des compétitions de robots d'ailleurs. De robots de football bientôt. Il y aura ça fait longtemps. Je me rappelle, il y a très très longtemps, on parlait des gens qui lançaient un projet pour faire une Coupe du Monde de football, mais qu'avec des robots. Bah, je crois qu'on y est bientôt, dans un ou deux ans, ça va arriver.
On a déjà les sortes de combats en arène avec des robots, ouais. Où chacun vient avec son robot, ce qui est assez amusant, puisque
ça, c'est pas non plus...
on a des inventions loufoques.
Une équipe, concevoir une équipe de football entièrement de robots, ça veut dire 11 joueurs, et qui doivent jouer ensemble, etc.
Et
c'est pas facile.
On en parlait la semaine dernière, maintenant les jeux de sport vont être capables d'avoir une intelligence différente pour chaque joueur, au lieu d'une intelligence commune. Ce qui fait que là, effectivement, ça deviendra très intéressant dans le sport, puisque chaque intelligence va gérer à proprement dit sa cohésion avec l'autre groupe. Ça peut être assez sympathique. Alors, vu qu'on parle de sport et de compétition, Reynald, tu es venu avec une petite news d'agenda, avec un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Même si c'est du Games Workshop.
C'est du sport.
C'est du sport. Enfin, on va parler de Blood Bowl, effectivement. Le football américain version Games Workshop. Effectivement, donc, entre amis, on essaye d'ouvrir une ligue pour y jouer sur Blood Bowl 2. Effectivement, qu'on peut trouver sur Steam facilement.
Et parce que c'est un jeu qui existe depuis des années. Table, les gens arrivent avec leurs petites figurines, on se met sur la gueule, mais ça existe. Effectivement, il a été adapté une dizaine d'années maintenant, je crois.
Ah oui, facilement. Ouais.
Sur ordinateur, PC, mais on doit aussi le trouver sur console.
Sur Mac et autres. Et là, donc, on a ouvert cette ligue. On va commencer les matchs courant début mars. On n'est pas encore sûr à peu près de la date. On laisse ouvert aux inscriptions. On fait.
Il faut posséder un exemplaire du jeu.
Après un exemplaire du jeu, PC. Que ce soit le Blood Bowl 2 ou l'officielle expansion Legendary, importe peu. Le principal, c'est que vous ayez le jeu avec la race que vous souhaitez jouer. Bon, ogre, vampire, gobelin, etc. pour les connaisseurs. C'est juste une nouvelle ligue, donc ce sera obligatoirement avec une équipe nouvelle. On a 1000 pièces d'or pour créer son équipe. Et après, le but, c'est de faire 2 matchs par mois.
C'est vraiment comme au football. Voilà. Quoi. T'es entraîneur, tu composes ton équipe avec les joueurs que tu veux.
Ouais. Alors, combien dure, un match de Blood Bowl, généralement 1 heure, 2 heures?
On peut jouer.
Après, ça dépend. Là, on a mis les tours de jeu à 3 minutes par joueur. Ce qui veut dire que ton tour ne dépassera pas plus de 3 minutes. Après, c'est à l'autre joueur de faire son tour et ça tourne comme ça. Où généralement, si tu fais une faute à un turnover, c'est à l'autre équipe de jouer. Donc tes tours peuvent être plus courts. Par contre, un match, une demi-heure, 1 heure, grand max. Quoi.
Est-ce qu'on peut assister au match et insulter les joueurs? Est-ce qu'on peut se doper? Ah oui, on peut se doper dans Blood Bowl en plus.
On peut tout faire, de tricher, acheter l'arbitre avant la rencontre.
Et ça fait partie justement dans les 1000 pièces d'or de départ pour acheter et créer son équipe.
On peut acheter quand même de temps en temps sinon.
Voilà. Mais le but, c'est quand même plus défoncer l'équipe adverse pour avoir plus de place sur le terrain pour les mettre un touchdown que d'aller mettre le touchdown. Il faut être réaliste.
Ouais, parce que Blood Bowl, c'est un jeu qui existe depuis très très longtemps. Et il y a encore toujours des tournois, des tournois sur table, etc., des ligues.
Ouais. Donc là, la ligue se met en place début mars, donc on a encore une semaine pour s'y inscrire pour ceux qui veulent. Donc on l'ouvre un peu à qui veut.
On ne pourra pas rejoindre pendant
Non, parce qu'en fait, on va essayer de faire 14 matchs jusqu'à la fin de la ligue. La ligue se termine début septembre pour qu'on puisse rendre une sorte de trophée à celui qui la remporte au niveau de la braderie de Lille. On va essayer de se trouver un petit troquet ou un truc comme ça pour... offrir le trophée au vainqueur,
de
boire un coup. Voilà. Après, est-ce que ça va être un trophée où on mettra l'acheteur va mettre 20 € puis qu'on demandera à tout le monde de mettre 1 € pour participer, ou est-ce que ça sera un truc gratuit puis que voilà. Le but, c'est ça, c'est qu'on ouvre l'inscription de cette ligue un peu à tout le monde, à qui souhaite jouer. Par contre, s'y tenir à 14 matchs jusqu'au mois de septembre, ça revient grosso modo à 2 matchs par mois.
Ça va.
C'est pas trop.
Est-ce qu'on peut jouer en décalé? On est obligé de jouer en temps réel avec son adversaire ou c'est pas par
correspondance? Le petit souci qu'il peut avoir pour les personnes réticentes, ce serait que potentiellement il y aurait des informations personnelles qui vont circuler, ne serait-ce que pour prendre contact avec son adversaire du moment, pour faire savoir quand est-ce qu'on va faire le match. Parce que ça va être un match en direct, donc il faut
chaque fois les deux joueurs, on leur dit toi tu joues contre un tel et c'est après, à vous de vous arranger
pour se retrouver
deux semaines pour faire ton match.
Voilà. Après, c'est des matchs qui sont pas forcément. Si j'avais un match à jouer contre Dom par exemple la première quinzaine de mars et qu'on est un peu empêché l'un et l'autre et que je devais jouer contre toi la deuxième quinzaine, je peux faire mon premier match avec toi puis Dom la deuxième quinzaine.
Voilà, c'est une ligue amicale encore. Voilà,
ça, il n'y a pas de souci. Donc pour ceux que ça intéresse.
Comment ? On s'inscrit ?
On s'inscrit. On peut demander tous les renseignements possibles à l'adresse suivante, à guillaume_courquin@msn.fr.
On mettra l'adresse sur,
le site. Voilà. guillaume_courquin, C-O-U-R-Q-U-I-N, @msn.fr.
Sinon, allez sur le Facebook, le Twitter, peu importe, de l'émission Heureusement en France.
On vous redonnera l'information au besoin. Et c'est vraiment pour ne pas se prendre la tête avec une ligue à tout prix. C'est vraiment pour s'amuser, pour jouer et faire du Blood Bowl.
Mais pour le coup, c'est vrai que pour avoir joué à Blood Bowl plusieurs fois sur PC, l'aventure est géniale, mais en mode solo, on a beaucoup trop de matchs et on a l'impression de pas beaucoup avancé, ça déprime un peu. Alors, le fait d'avoir une compétition comme ça, avec des one-shot une ou deux fois par mois, je trouve ça assez intéressant.
Ah ouais, là, pour vous, simplement vous dire, là, pour l'instant, on est une petite dizaine d'inscrits, je ne connais que trois personnes. Après, ça permettra de faire des rencontres, de voir, on commence à jouer à Blood Bowl, puis après, peut-être qu'on formera un groupe à jouer sur autre chose. Enfin, on verra bien.
Voilà, donc, Facebook de l'émission Heureusement France ou sur notre site anotherpodcast.fr. Je vous propose de passer au sujet d'agriculture.
Déjà ? Ah,
mais déjà ? Oui, déjà, Dominique.
On a encore plein de trucs sur le sport. On va encore faire un dossier sport qui va faire 6 mois.
On le fera traîner, c'est pas grave. Il y aura d'autres objets connectés la prochaine fois. Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'agriculture ? Tout
c'est
simplement.
Le salon d'agriculture,
parce que...
ouais.
Ah non, j'allais dire tout simplement parce que Jean-Claude Massoulier a fait une chanson.
Oh non, le pauvre, il est mort il y a longtemps.
Maintenant, quand on voit les sujets sur le drive, on sait que François choisit des chansons.
On trouve des chansons, on dit allez, quel sujet on va parler pour... comme prétexte pour la passer ?
Ah, ça peut être... C'est de la découverte.
Le soir, lorsque les bœufs sont rentrés dans l'étable, après avoir cosmé la croûte et bu un coup, on range dans un coin toutes les chaises et la table, et le cousin Victor, il attrape son bignou. Moi, j'attrape la Marie, puis on se met face à face, elle me fait yéyé, j'y fais yéyé aussi. Elle enlève son sabot.
Encore un chanteur à texte.
Il ne veut pas, Jean-Claude Massoulier, il a écrit des centaines de chansons, mais pour les plus... Même pour Céline Dion. S'il te plaît.
On va voir sur YouTube, il a un pas de danse quand même.
C'est le twist agricole. Hein.
Et quand au bout d'une heure, j'ai les jambes en flanelle, quand je suis tout pâle des genoux,
même si je peux plus représenter la France à l'Eurovision. Oh, je sais plus, c'est pas impossible.
Mais il a pas gagné, je crois. Hein. Apparemment, on est mal parti pour l'Eurovision. Hein.
Encore
J'ai pas lu les news, mais...
On envoie le fils de Michel Leeb, qui s'appelle Tom Leeb. Thomas Leeb. Il chante en anglais et... Comment dire ?
En franglais ?
Non, pur anglais, apparemment. Il lui fait beaucoup de reprises, etc. En anglais. Mais bon, ah bah voilà, quoi.
Est-ce qu'on pourrait pas...
Une émission spéciale Eurovision direct ? Non, on verra. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais...
Tom Leeb, c'est ça ?
C'est ça, Tom Leeb.
Tom Leeb, candidat.
Non,
t'as pas envie d'écouter ?
Non, s'il vous plaît, non. On fera une émission spéciale Eurovision.
Écoute, je suis partant pourtant.
Ça fait plusieurs années qu'avec l'équipe de l'Another Podcast, nous vous souhaitons faire un direct sur l'Eurovision.
Ça.
Peut-être que cette année sera l'année.
On négociera avec Radio Campus.
Au pire, on le fera sur notre site. Et on ne pourra pas faire de rediffusion, effectivement, mais... Ça sera mieux que Ruquier, etc.
Pas faux.
C'était Jean-Claude Massoulier avec le twist agricole et ça date quand même de 1963.
Avant Radio Campus, waouh.
C'est pour ça que c'est jamais passé sur Radio Campus.
C'est pour ça.
Et on peut parler un peu d'agriculture avec le salon qui arrive.
Vient de commencer.
Et des actualités technologiques, c'est ça ?
Oui, puisque maintenant tout est connecté, même l'agriculture. Et même, il y a même de l'intelligence artificielle, s'il te plaît. Parce que comme pour le sport, évidemment, on utilise l'intelligence artificielle pour améliorer Comme on dit, les clubs de football, les clubs de sport et de football sont des entreprises. Bah, une ferme, c'est une entreprise et on appelle tous les moyens pour produire moins et dépenser moins. Pour produire plus et dépenser moins, pardon.
Alors, produire plus, oui, effectivement. Pour et le mieux. Coup.
Surtout mieux.
Oui.
Donc... Surtout en préservant un peu mieux ce qui sert de notre terre, l'environnement, l'électricité, un peu tout ça. Quoi.
La première, le premier impact, et on parlait de Big Data tout à l'heure, c'est que les gens essaient d'appliquer le Big Data aux agriculteurs en Afrique, ce qui permettrait donc... alors là, ça a été testé sur la production de mangue, et pour pouvoir donc produire mieux et nourrir également mieux. Donc, c'est intéressant de voir à quel point le monde commence à être dirigé par le big data, mine de rien. Peu c'est importe le domaine où on va regarder.
Avant de planter, avant de t'occuper de choisir ce que tu allais planter, etc., tu regardais la météo, tu regardais le ciel, tu regardais ce qui se passait autour de toi, tu regardais l'état de la terre. Non, maintenant tu vas sur Internet, alors que le champ est à côté de toi peut-être, et tu regardes et tu vas analyser des photos satellites ou des sites entiers de Big Data sans même mettre un pied sur tes champs pour voir ce qui se passe et pour choisir l'avenir de ta terre. Et c'est exactement ça. C'est des logiciels qui vont diriger. À limite, je disais que le champ est à côté de toi, mais même pas. Tu peux diriger ta ferme de l'autre bout de la terre, pratiquement. Parce que même les appareils, les tracteurs, etc., sont connectés. Donc tu peux presque les télécommander depuis chez toi, depuis le haut d'un gratte-ciel de New York.
C'est ça à part un problème mécanique où tu auras besoin d'intervenir, sinon tout peut se faire.
J'ai testé récemment les fameux jeux vidéo Farm Simulator. Version, ils sont à la 19e édition quand même de ce jeu. Je me dis, mais pourquoi ? J'ai testé. Et, alors, j'ai pas joué longtemps parce que c'est chiant comme la mort. Faut se l'avouer. Mais c'est absolument terrible, Farm Simulator.
Mais à la Paris Games Week de cette année, il y avait un stand énorme avec une compétition de tracteurs sur Farm Simulator.
Avec des lunettes de réalité virtuelle ou pas ?
Non.
Est-ce qu'il y avait l'odeur aussi ?
Moi, j'ai joué sur un ordinateur traditionnel avec un écran, un clavier, une souris. Mais non, tu imagines de jouer à Farm Simulator avec un casque de réalité virtuelle ? Mais tu deviens fou.
Tu es dans une moissonneuse batteuse et tu dois diriger tout.
Tu deviens agriculteur, ça n'a rien à voir.
Mais non. Ça n'a rien à voir du tout. On connaît des agriculteurs. Hein, mais non, ça n'a rien à voir.
Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui...
J'ai conduit un tracteur moi-même. J'ai conduit dans le jeu vidéo. Ça n'a rien à voir.
Mais comme tu disais, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un agriculteur de rester dans sa maison et de contrôler son tracteur ? Enfin,
ils le font. Hein. Ils se font passer pour des gros travailleurs. En fait, c'est des... Non, je plaisante.
Un petit GPS et c'est parti. Hein, c'est ça, en avant.
Mais oui, c'est ça.
Peut-être
c'est
le prix du matériel, en fin de compte.
Ça, si tu as l'occasion, si vous êtes passé au salon d'écriture, essayez de demander à monter dans les stands. Enfin, vous allez sur les stands des fabricants de tracteurs, de matériel, etc. Et demandez à monter dedans, mais vous êtes dans K2000. Un tracteur, c'est K2000 maintenant. Tu as des écrans partout, c'est incroyable. Tu n'as même plus besoin de regarder autour de toi quand tu regardes tes écrans.
Je suis sûr que même Kit, il est dépassé. K2000,
il est dépassé. Hey, une nouvelle série avec un tracteur, ça serait intéressant.
Et tu pourras jouer donc dans ton tracteur à des jeux de société avec l'intelligence artificielle.
T'imagines, t'es dans ton tracteur, tu joues à Farm Simulator.
Wow. Non, mais on pourrait.
Ça sera ça en fait.
On pourrait jouer à un jeu de société qui est lié à l'agriculture. De façon générale, puisque Reynald, toi, tu avais dégoté un petit jeu.
Ah oui, quand j'ai vu le thème agriculture sur le drive, je me suis dit, tiens.
Des jeux de société sur l'agriculture, il y en a
plein.
Le plus connu, c'est Agricola, je crois. Agricola,
Rosenberg.
T'imagines, Agricola, c'est un jeu où tu simules une ferme allemande au 18e siècle.
Voilà, où tu commences avec deux pions et tu dois essayer de. Ta famille.
C'est un thème super sexy quand même. Ah, c'est important, c'est un jeu des plus populaires et les mieux notés au monde. Quoi.
Lorsqu'on avait interviewé la personne de Rocambole, un magasin de jeux de société à Lille, il nous avait dit qu'un des tournants un peu du jeu de société avait été Agricola, où on amenait un nouveau jeu un peu expert avec justement
Pour moi, c'est ça.
Oui, mais j'ai en fait mode jouer... familial. Presque.
C'est un des jeux qui me marquera toujours, et c'est un des jeux. Effectivement, je l'ai fait jouer à des gens qui n'étaient pas des gros joueurs de ma famille. Et alors, c'est vrai que c'est rigolo parce que tu joues avec des petits moutons, des petites figurines, c'est rigolo. Donc, tu déplaces, tu fais des trucs dans ton coin, c'est marrant. Tu vois, tu développes ta ferme. Mais il y a une espèce de mécanique mentale qui se met en place. Jeu, ça peut être ça aussi. Alors que tu joues une ferme, des fermiers allemands au XVIIIe siècle. Enfin, c'est un truc complètement improbable.
C'est un mélange complexe d'un jeu qu'il faut vraiment être à fond dedans, mais chaque joueur fait qu'une action. Il pose son pion, il fait l'action qui vient de prendre l'action. Enfin voilà. On a commencé à parler de salade de points à ce moment-là. Ouais, pourquoi exactement. Parce que les scores dans Agricola, tu avais pour chaque chose qui se passait dans ta ferme, tu pouvais perdre des points ou avoir des points.
À la fin de la partie, quand il y a un certain nombre de tours qui se sont passés, que tout le monde a développé plus ou moins sa ferme, etc., plus ou moins des vaches, des cochons, etc., et ben on compte les points. Mais tu as des points pour le nombre de cochons que tu as les points pour le nombre de moutons, pour le nombre de bœufs, pour le nombre de chevaux, si tu as, pour le nombre de champs que tu as fait, pour le nombre de champs vides, tu perds des points, pour le nombre de bébés que tu as fait,
le type de légumes,
et c'est le type de jeu qu'on appelle les salades de points.
Voilà. Et pourquoi on parle de ça ?
Plus de temps à compter les points qu'à jouer.
Presque à la fin. Pourquoi on parle de ça ? Parce que justement, j'ai trouvé le petit jeu qui s'appelle Salade de points, qui a été édité par Gigamic, qui est sorti quoi, il y a deux semaines, trois semaines.
Gigamic, Hauts-de-France représente.
qui est un jeu de... Que je retrouve ça rapidement.
C'est écrit sur ta boîte ?
Bah oui, mais j'ai tout préparé.
Oh là là.
C'est un jeu de Molly Johnson.
Il a la boîte à côté de lui, mais il regarde sur l'ordinateur.
Oui, parce que sur la boîte n'est pas marqué l'illustrateur. Et franchement, c'est inadmissible. Donc... Molly Johnson,
enfin des effets spéciaux.
Robert Melvin et Shows Stonkiewicz, j'ai réussi à le prononcer, illustré par Dylan Mangin. C'est une boîte qui contient 108 cartes, c'est plus la règle du jeu, que des cartes. Il y a sur les cartes, au niveau recto, il y a des légumes dessinés.
Je montre à la caméra.
Voilà, et voilà. Et sur le verso, il y a un menu. Et il y a donc 108 menus différents. Et le but pour les joueurs, c'est soit ils piochent des légumes, soit ils piochent un menu.
Il y a 6 légumes différents.
Voilà. Et une fois que tout le monde a pris toutes les cartes qu'il y avait au centre de la table, on compte, tout simplement. On prend pour chaque menu, on vérifie tous les légumes qu'on a devant soi. Est-ce que le menu nous rapporte des points ? Autant de points par menu.
Là, par exemple, j'ai une carte menu, et bien, elle me dit que chaque concombre, c'est pas un concombre ça, c'est un poivron, me rapporte 2 points. Et donc, je regarde si j'ai 5 poivrons de moi, j'aurai 10 points. Cette carte-là va me rapporter 10 points. Et celle-là me dit que, par exemple, pour chaque chou et chaque oignon que j'ai, chaque paire de ces fruits me rapporte 5 points. Donc, c'est à moi d'essayer de récupérer, avant les autres, si possible, un maximum de ces deux fruits.
Et ce qui est assez intéressant dans le jeu, c'est que les cartes sont disponibles pour tout le monde. Avant peut prendre la carte qui va en générer une nouvelle, qui va être mieux ou moins bien.
Les règles sont terriblement simples, mais les possibilités sont énormes parce que tu vois toutes les cartes qui vont venir et tu vois toutes les cartes que tout le monde a récupérées. Donc, si t'es un petit peu matheux, éventuellement, tu peux calculer le score de chacun, mais c'est pas le but. Mais tu peux voir si tel joueur a intérêt à prendre tel fruit. Donc, des fois, si je prends cette carte-là, elle va me rapporter 2 points à moi, ça veut dire que je laisse une autre carte à un autre joueur et lui, ça va lui rapporter 3 points. Donc, je ferai peut-être exprès de prendre une carte qui ne va pas me rapporter de points, mais qui va en rapporter moins à l'autre.
Donc, la mise en place est très simple. On met juste les cartes, on les met en 3 piles, grosso modo identiques. On retourne 2 cartes de chaque pile. Comme ça, voilà. On peut soit prendre un menu, qui est au-dessus d'une pile, ou soit un des deux légumes qui est en face d'une pile. Et après, on remet les légumes qui ont été pris. Comme ça, on fait tourner les menus à ce moment-là. Le seul petit point négatif que je trouve, moi, c'est le prix. 13 euros pour 100 cartes, alors qu'on avait des jeux...
C'est une boîte en métal.
Voilà. Bon. Il y avait des jeux qui sont aussi remplis de cartes, comme Fujiflush.
Les cartes sont de bonne qualité, mais je sens qu'à force d'y jouer, elles vont être un petit peu... Voilà.
Ouais. Mais sinon, le
point
fort...
bien faire des effets spéciaux sonores à la caméra.
Le point fort, c'est que tu peux jouer en famille à l'emporte-pièce.
Ah oui, c'est vraiment
sans problème.
Très simple.
Et tu peux jouer avec des joueurs aguerris qui vont calculer, qui vont faire du brainstorming.
Dès que tu as fini une partie, tu dis, surtout quand tu as perdu, non, ça va pas, faut que on rejoue là, je vais faire différemment cette fois.
Un peu comme une partie d'Agricola où dès que tu as fini, tu restes toujours sur ta
faim. Ça prend plus de temps à mettre en place. Hein,
deuxième point fort, c'est que tu mets le nombre de cartes par rapport au nombre de joueurs. Et donc, on va dire que tu as 18 légumes de chaque type. Et si on joue à 3, tu dois en enlever 9. Je dis vraiment des bêtises, il faut relire les règles. Tu en retires 9 de chaque type Et donc à chaque partie, tu vas pas retirer les 9 identiques.
C'est très simple.
Donc les menus vont changer aussi à chaque partie.
Oui, tu peux même presque mettre en place et commencer à jouer, puis expliquer au fur et à mesure. C'est vraiment
faire à mesure, ouais.
Effectivement, 13€, ça reste moyen, mais pour un jeu, c'est vraiment rejouable.
En fait, tu payes la boîte métal pour le transporter partout.
Quoi. C'est vrai que c'est typiquement un jeu de voyage. Ça.
Ouais. Donc c'est pour à partir de 8 ans, 2 à 6 joueurs pour une vingtaine de minutes. Quoi.
T'en feras un instrument de musique de cette boîte, je le sens. Dominique, est-ce qu'on peut finir avec quelques autres news d'agenda, puisque je vois qu'il
y en a plein.
Il y a l'Imagine Lude qui va se passer du 29 février.
Oui, mais c'est bon, on l'avait cité la dernière fois, mais on va le rappeler, puisque c'est dans 2 semaines, c'est ça, du 29 février au 1er mars, enfin 29 février et 1er mars, donc c'est la semaine, c'est le week-end prochain à Cléty dans le Pas-de-Calais, donc Imagine Lude, je veux dire petit, oui, on n'est pas au Festival de Cannes non plus, donc un festival de jeux. Je vais essayer de vous retrouver l'endroit exactement où ça se passe. Cléty, je crois que c'est à la salle des fêtes de Cléty.
C'est à Cléty, dans le Pas-de-Calais.
Dans le Pas-de-Calais. C'est L-E-T-Y. Tous les événements qu'on vous cite sont sur notre page Facebook, dans la liste événements, on en a plein. Et dans 2 semaines, c'est bientôt après Amiens, à toi, le festival à toi de jouer, donc c'est un festival un peu plus gros. Le 14 et le 15 mars à Amiens, dans la Somme. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est pareil, un gros salon du jeu exactement.
Et je pense qu'il y aura d'autres. Je pense qu'on va garder les événements d'avril pour la prochaine fois.
Il y a beaucoup à faire.
Mais sachez que dans l'émission Heureusement en France, nous allons prochainement vous parler d'une chasse aux bières et d'une chasse aux sextoys.
Que j'avais déjà cité la semaine dernière quand tu nous avais fait ton petit quiz sur les sports bizarres. J'avais dit qu'il y avait en Belgique, il y avait de la chasse aux sextoys. Il y a de la chasse à la bière, mais ça en Belgique, c'est pas. On redonnera les dates bien.
Pour certains, les deux, c'est la même. Mais je donnerai pas de nom.
Ne vous trompez pas de chasse. Ça peut être très important.
Décapsuler avant alors.
Voilà.
Une petite news spéciale dédicace pour les GNU avant de se quitter.
Alors, rapide.
Oui, c'est vraiment. Parce que Microsoft a annoncé que les mises à jour de Windows 10 X. Ça va leur faire plaisir, ne prendront jamais plus de 90 secondes maintenant.
Eh oui. On dit merci qui ?
Voilà, est-ce que ça va convaincre plein de gens de revenir sur Windows 10 ? Je ne suis pas sûr.
Et franchement, je ne sors pas le premier du studio, je ne veux pas me faire taper.
Merci Microsoft. Voilà, on se quitte.
Tous les systèmes ne peuvent pas en dire autant.
On se retrouve la semaine prochaine sûrement pour un back-to-back challenge.
Alors on vous laisse avec l'écho des gnous sur Radio Campus 106.6.
Yes, et on se quitte avec les vendanges, une musique
agricole.
Avec les ouilles.
Bruxelles.